Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement. Mon Paris FM.
Hello tout le monde, bienvenue dans Raconte ta parentalité. Parent, c'est le plus beau métier du monde, alors pourquoi ne pas le raconter? À chaque épisode, je recevrai un invité qui racontera sa parentalité ou comment il l'a vécu. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Barberiche. Salut Barberiche.
Comment tu vas?
Bien et toi?
Ouais, ça va.
Quoi de neuf?
Bah, on est là, hein. On a répondu favorablement à l'appel et on est là pour raconter un peu je suis là pour raconter mon histoire, mon parcours en tant que parent, papa.
Ok, bah rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter?
Barberiche, de mon vrai prénom Anne. Papa de trois filles, j'ai 44 ans. Je travaille auprès de différents publics, que ce soit jeunes, moins jeunes, enfants, adolescents, adultes, depuis à peu près 25 ans. J'ai occupé différents postes, on dira. J'ai été animateur, j'ai commencé par l'animation, ensuite j'ai été éducateur sportif, football. J'ai fait aussi de l'accompagnement à la scolarité. J'ai fini par travailler dans un projet de réussite éducative. Depuis 10 ans, je travaille dans le monde des médias. Et là, depuis quelques années, je suis cofondateur d'une entité qui s'appelle Sopark, que tu connais.
Sérieux?
Tu connais bien. Et voilà. Mais je pense qu'on en reparlera durant notre échange.
Ok. Est-ce que tu veux bien nous présenter ta cellule familiale? Comment tu as grandi? Est-ce que tu as des frères et sœurs? Est-ce que tu as grandi dans une famille monoparentale? Tu nous expliques un peu dans quel contexte tu as grandi?
J'ai pas grandi dans une famille monoparentale, mais ma mère s'est séparée rapidement de mon père biologique. Et a vécu avec un autre homme, qui est mon père, que j'ai toujours considéré comme mon père, parce que c'est lui qui m'a élevé. Donc, c'était pas une famille monoparentale. J'avais du coup ma mère et mon père, celui que j'appelle mon père du coup. Des frères, oui, j'ai appris que j'en avais, mais longtemps après... L'âge de l'enfance, en fait, après l'enfance. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, on m'a dit que j'avais des frères qui avaient un an de plus que moi, mais je les ai rencontrés adultes.
D'accord.
C'est-à-dire que je n'ai pas vécu avec eux.
T'avais quel âge?
2.
Bah, quand t'as rencontré tes frères?
Je crois que j'avais 25 ans, 24, 25, 26. Je sais plus trop, mais
et
c'est
du coup,
dans
combien de frères t'as?
Ces eaux-là. Des frères, j'en ai 4. 4.
D'accord. Et du coup, donc, tu nous as dit que t'avais 2 frères qui avaient un an de plus que toi. Je suppose qu'on parle des jumeaux.
Ouais, c'est des jumeaux.
Ok. On les nomme pas.
Ouais. C'est des personnes connues. Donc c'est Jekyll et DOC du groupe De Balles de Neg. Et pour ceux qui ne sont pas très portés rap, du groupe Bisson à Bisson.
Ok, ça marche. Et je crois qu'on n'a pas fini dans la catégorie des artistes.
Après, eux, ils ont un grand frère qui est devenu aussi mon grand frère, Cyril.
Ok.
Cyril qui, lui, est connu dans le monde du R&B. Fait partie des légendes du R&B en France.
Il a bercé mon adolescence.
Et on a Herman qui est plus jeune que nous.
Est-ce que tu peux nous dire, Cyril, du coup, R&B, mais quel groupe?
Aphrodisiaque.
J'aime te l'entendre dire parce que je l'ai trop écouté. Et ensuite, on a
Herman.
Herman.
C'est le dernier, lui, il est plus jeune que moi.
D'accord. Par alliance, du coup, il y a aussi...
Ouais, il y a Kenny aussi, du coup. Mais après, ça reste plus du côté de mes frères. Mais bon, après, nous, en Afrique, il n'y a pas de demi-frères. On est tous des frères. Et de toute manière, on a de tels liens que... On ne fait pas ces distinctions, nous, entre nous.
D'accord. Donc, si j'ai bien compris, tu as grandi comme un fils unique jusqu'à l'âge de 25 ans. Et à 25 ans, tu te découvres en fait membre d'une grande fratrie.
Exactement.
D'accord. On en parlera un peu plus tard. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu étais enfant, le lien avec du coup, tes parents est-ce que tu te souviens, si on essaye de faire un petit peu marche arrière, de comment était le... Anne, enfant?
Bah enfant, j'étais un fils à maman. Parce que du coup, ma mère m'a eu jeune. Et on peut dire que j'étais son sac à dos. J'étais son sac à dos, son sac à main. J'étais son bébé, son tout en fait. C'est-à-dire que ma mère m'emmenait partout. Donc j'ai des souvenirs, vagues souvenirs. Je sais que ma mère du coup ne conduit pas. Et elle faisait la gare de Sevran-Bedotte, parce qu'on habite à Villepinte du coup, la gare de Sevran-Bedotte jusqu'à Villepinte. Villepinte, hôtel de ville, à pied. Et elle me portait, je me rappelle.
Ça représente combien de temps ça?
Ça c'est quoi? C'est plus d'une demi-heure de marche en vrai. Hein.
J'espère que t'étais pas un gros bébé.
Non, ça va, ça va. Ça va, mais ça fait une petite demi-heure de marche. Donc elle m'a longtemps porté sur son dos. Sur son dos, parce que c'est vrai qu'avec ma mère, on bougeait énormément. Et parfois, il nous arrivait de rentrer avec le dernier RER ou de rentrer tard. Et moi, à l'âge que j'avais, lorsqu'on arrivait aux heures tardives, moi, je m'endormais, en fait. Et elle me portait. Donc ça, c'est vraiment un souvenir qui reste gravé. Le fait que ma mère me porte.
Et au niveau du lien, de la relation, comment est-ce que vous étiez dans la communication? Quel modèle de communication vous aviez, tes parents et toi, du coup, à l'âge de l'enfance?
Moi, comment dire? C'est particulier parce que après, ça reste, moi, mon impression, c'est que étant jeune, j'étais très proche de ma mère. Et j'ai l'impression que plus j'ai grandi et plus nos rapports se sont distendus, ça a été compliqué, un peu plus compliqué, je pense.
Et avec ton père?
Avec mon père aussi, c'était particulier, c'est-à-dire qu'il a été une personne bienveillante, pareil, jusqu'à ce que je rentre au collège, on va dire.
Donc en fait, tes rapports avec tes parents, ils commencent à se tendre vers l'arrivée au collège?
Au collège. Pense, ouais.
Et du coup, comment était Anne adolescent?
Anne adolescent, il était... je suis gémeaux, donc j'avais deux personnalités, si je peux dire ça comme ça. C'est que à la maison, j'étais quand même quelqu'un de calme, un peu réservé dans mon coin, de ce que je me souviens. Et à l'extérieur, j'étais un peu turbulent. Quand je dis turbulent, c'est pas... je faisais pas de grosses bêtises. Mais j'étais ce petit collégien là qui aimait bien vanner, qui aimait bien bavarder, qui aimait bien faire quelques petites bêtises. Donc voilà.
T'es d'origine congolaise?
Exactement.
Brazzaville?
Exactement.
Chez vous, souvent, on nomme les tontons, les tatas, papa, maman?
Ouais.
Est-ce qu'on peut s'arrêter sur ça un instant, parce que c'est très important d'un point de vue parentalité, famille. Est-ce que tu as beaucoup d'oncles, de tantes?
Ouais. En fait, moi, parce que tout à l'heure, je disais que mes parents ne... En fait, mon père biologique et ma mère ne vivaient pas ensemble. Et après, j'ai eu mon, on va dire, beau-père, mais que je considère comme mon père qui était là. Mais lui, je n'ai... Là, à ma connaissance, j'ai vu personne de sa famille, en fait. Donc, j'ai évolué exclusivement avec la famille de ma mère.
D'accord.
Donc, eux, c'est une fratrie de 9 enfants. Ma mère m'a eu jeune, donc forcément... ma mère m'a eu jeune, donc forcément, j'étais le bébé.
Ok.
J'étais le bébé de tout le monde. C'est-à-dire que... On va dire que même jusqu'à aujourd'hui, tous mes tantes, mes, oncles et tantes.
Ils ont tous pris part à ton éducation?
Ils ont tous pris part, tous.
Sans
exception. C'est-à-dire que tous, aujourd'hui, quand ils me parlent, eh ben, je les écoute comme si c'était ma mère, mon père. Et j'ai rien à dire, vraiment. Et c'est comme ça que je me suis construit, en fait. C'est-à-dire qu'on ne me verra jamais, même si c'est mon oncle, même si c'est ma tante, et bah, avoir un mot plus haut que l'autre, ou ne pas les écouter, ou lorsqu'ils m'appellent, même aujourd'hui, hein, ils m'appellent pour faire différentes choses, et bah, si j'ai rien à faire, je suis au garde à vous.
Ouais, ok. Est-ce que tu as une relation particulière avec l'un ou l'autre de tes oncles?
Ouais, ouais, j'ai un oncle, en fait, parce que j'ai oublié d'en parler, j'ai un oncle qui est venu en France pour me garder. Ma mère travaillait beaucoup et donc dans sa fratrie de 9, il y avait le dernier qui a 5 ans d'écart avec moi. Et donc il est venu en même temps pour faire ses études, mais aussi pour me garder. Et donc c'est vrai qu'on a un rapport, j'ai un rapport privilégié avec cet oncle-là parce qu'on a 5 ans d'écart. Donc on a évolué comme deux frères, c'est-à-dire que dans la ville, beaucoup nous identifiaient en tant que frères, alors que c'est mon oncle, alors que je l'appelle tonton. Et même des fois, ça provoquait des situations cocasses parce que on a que 5 ans d'écart. Et moi, je l'appelais tonton, donc il y en a beaucoup qui ne comprenaient pas pourquoi. Et ouais, donc cet oncle-là en particulier, avec cet oncle-là en particulier, j'ai des liens très 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 forts.
D'accord, donc il a joué un rôle de grand frère auprès de toi?
En fait, il a joué tous les rôles. Il a joué tous les rôles parce que, à la fois le rôle d'oncle,
ouais,
à la fois le rôle de grand frère, à la fois le rôle de père.
Ah, ok.
Je dirais pas de mère parce que ma mère était là, mais je dirais aussi mère aussi, dans le sens où c'est lui qui me faisait la cuisine, c'est lui qui me faisait les repas, c'est lui qui me faisait les devoirs, c'est lui qui me transmettait certaines valeurs, c'est lui qui me rappelait à l'ordre. Donc je pense vraiment qu'il a joué tous les rôles.
Ok, on peut s'arrêter sur quelques valeurs que du coup il t'a transmises et qui vont se transposer dans ta parentalité. Est-ce que tu en cibles certaines tes parents comme pour ton oncle?
Ouais, mon oncle, vu que c'est une bonne personne, c'est-à-dire que là, quand je réfléchis, il va bientôt avoir 50 ans, je crois l'année prochaine il a 50 ans. Moi, je ne l'ai jamais vu faire du mal à quelqu'un. Mais c'est réel. C'est-à-dire que quand je réfléchis, je me dis, il n'a jamais fait de mal à quelqu'un. Jamais. Donc, je pense que c'est quelque chose qui m'a transmis, le fait de ne pas faire de mal à l'autre. Ou en tout cas, en premier. Quand je dis en premier, c'est que moi, j'ai un autre tempérament que le sien. C'est-à-dire qu'il m'a transmis plein de choses, mais c'est vrai que moi aussi, j'avais quand même mon caractère et que je suis un peu plus virulent que lui. Donc, je dis en premier parce que moi, je suis de ceux qui respectent les gens, même plus qu'il n'en faut, du respect. Mais dès lors que tu manques de respect, je peux être le plus irrespectueux du monde. Donc c'est pour ça que j'ai dit ce que j'ai dit. Mais vraiment, la valeur principale qu'il a pu me transmettre, c'est ça, c'est d'être une bonne personne.
Et ta mère, ton père?
Je pense que mon père, lui, m'a transmis cette envie d'apprendre. Parce que j'ai des petits souvenirs, là, c'est que mon père, il écrivait beaucoup. Il regardait beaucoup la télé. Et lorsqu'il tombait sur un mot, il tombait sur une expression, il tombait sur quelque chose qu'il venait d'apprendre via la télé, et ben il l'écrivait. Et il était très curieux. Dans mes souvenirs, il regardait beaucoup d'émissions, de débats et autres. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a transmis, parce que maintenant, en tant qu'adulte, je me rends compte que moi aussi, même si je ne prends pas forcément de notes, j'aime bien regarder les émissions et me nourrir en fait des échanges pour parfaire un peu mes connaissances.
Et ta mère, du coup ?
Bah, ma mère, ce qu'elle m'a transmis, c'est la rigueur, l'abnégation, la détermination, qui rejoint l'abnégation en vrai, et je pense aussi le sale caractère.
La chose qui me passe en tête là quand je t'écoute, c'est est-ce que tu as des faits marquants de ton enfance pour clôturer sur le chapitre de l'enfance, l'adolescence, des choses qui t'ont marqué, que tu aimerais échanger, enfin partager, des moments clés, peut-être des moments dont tu as l'impression qu'ils ont pu changer ta destinée ou pas.
Ouais. De toute façon, moi j'en ai. Quand je réfléchis, j'en ai deux. En fait, non, j'en ai trois. Le premier fait marquant, c'est... moi, je sais que... en fait, ma mère, à un moment donné, a dû me laisser dans une... ce qu'on appelait à l'époque la DAS, je crois.
D'accord.
Elle a dû me laisser. Elle ne m'a pas laissé longtemps, mais elle avait des difficultés. Donc, du coup, elle m'a laissé.
Elle
m'a confié. Et c'est bizarre parce que j'étais très jeune, mais je me souviens qu'elle m'avait dit « Je vais revenir. Je vais revenir te chercher. » J'ai cette phrase en tête alors que j'étais très très jeune. Et donc, j'ai été confié, comme tu as dit, et elle est revenue me chercher.
Ok, donc tu as été confié à l'aide sociale à l'enfance.
Exactement.
Est-ce que tu as l'impression que c'est un abandon, c'est une preuve d'amour plutôt ?
Non, moi j'ai jamais vécu ça comme un abandon parce que c'était compliqué. De ce que je réalise aujourd'hui, c'était compliqué et elle m'a dit je vais venir chercher, elle est venue me chercher. Donc j'ai rien à lui reprocher en réalité parce que j'ai cette phrase en tête où on me dit je vais venir te chercher et elle est venue me chercher. Parce que je me rappelle, après, ça reste des souvenirs. Hein,
bien
donc,
sûr.
Je ne sais pas si ma mère pourra me suivre dans ce que je suis en train de dire, mais j'ai même le souvenir qu'à un moment donné, on allait m'adopter. Et que, non, elle a refusé. Elle a dit, mais attendez, je vous ai dit que j'allais venir chercher. Donc non. Donc ça, c'est un fait marquant parce que, à la suite de ça... je suis venu vivre à Villepinte chez ma tante.
D'accord.
Une de mes tantes, en fait. Il y a une de mes tantes qui nous a pris, ma mère et moi. Donc je sais que ça, forcément, ça a changé ma destinée, du coup. Donc en plus, avec cette tante, j'ai un rapport aussi très fort, très particulier. Donc ça, c'est le premier fait marquant. Le deuxième fait marquant, c'est quand mon oncle vient. Donc lui, il a 12 ans, donc moi, je dois avoir quoi ? 7 ans à peu près, il vient pour me garder. Donc deuxième fait marquant, parce que comme je l'ai dit précédemment, mon oncle c'est une bonne personne, c'est quelqu'un qui a eu du mal à son arrivée en France parce que du coup il venait du bled, et aujourd'hui être un blédard ou parler du bled c'est hype aujourd'hui, alors qu'à notre époque quand tu venais du bled, et t'étais stigmatisé.
Ok.
C'était compliqué. Quand t'arrivais dans les établissements scolaires, c'était très compliqué. Et lui, il a vécu ça parce qu'il a dû s'adapter au niveau scolaire, changement de mode de vie. Et du coup, je me rappelle, et à chaque fois, je le chambre, même jusqu'à aujourd'hui, des fois, quand j'aime le taquiner, je lui dis, tu te rappelles avant comment t'étais un cancre ? La première année, en fait, quand il est arrivé, il avait vraiment des sales notes, mais vraiment. Et il a persévéré. Et au final, il est devenu meilleur de sa classe.
Ouais.
C'est-à-dire qu'à la maison, quand les bulletins arrivaient, lui, c'était toujours félicitations, mention bien. Bon, moi, c'était peu mieux faire. Mais du coup, lui, il a eu du mal la première année. Mais il s'est ressaisi et après toute sa scolarité, il a eu que des bons résultats. Il a même obtenu ses diplômes avec mention. Donc j'avais vraiment un beau modèle en face de moi. Et je pense que c'est grâce à lui que j'ai pu emprunter un chemin vertueux.
Et même dans les moqueries, il résistait. T'as un exemple de moquerie où tu dis... Fin...
Ouais, mais c'était compliqué. Moi, je me rappelle qu'il y a une anecdote. Lui, à chaque fois, avec lui, on en parle. C'est que à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Où les enfants, moi, je le vois avec mes propres enfants, ils ont plein de choses en double, en triple, en quadruple. Et nous, lorsqu'on nous achetait une paire de baskets, c'était la paire de baskets. Et par chance, on pouvait en avoir une deuxième à Noël. On en avait une à la rentrée. Et après, on pouvait en avoir une à Noël, par exemple. Moi, comme j'avais beaucoup d'oncles et tantes, souvent, ils me donnaient de l'argent pour aller m'acheter des paires. Mais sinon, des fois, tu faisais peut-être toute une année avec une paire. Et lui, il avait un sac que ma mère lui avait acheté. Mais il y a une surveillante, je me rappelle à l'époque, qui avait fait preuve de zèle. Un peu trop de zèle, et lui avait arraché son sac. Et donc son sac, il était craqué, et donc il pouvait plus l'utiliser. Mais le problème, c'est qu'il pouvait pas avoir un autre sac.
Ah oui.
Donc ce qui se passait, c'est qu'il allait à l'école avec un sac plastique.
Genre un sac plastique
Un sac plastique. Un sac, en plus, nous, à l'époque, c'était au Bedot, maintenant c'est Carrefour, mais avant c'était Euromarché. Donc je crois que c'était un sac Euromarché, après il faudrait qu'il me confirme. Mais c'était un sac plastique, et du coup, il allait avec ses fournitures scolaires. Avec un sac plastique, donc forcément.
Bah ouais.
Les moqueries. Il a surmonté ça, en fait. Il a surmonté ça et mon oncle, ça a toujours été, comme je disais tout à l'heure, ça a toujours été une bonne personne, un gars joyeux. Tout le monde se souvient de lui quand il dansait dans la rue. C'était un mec qui dansait dans la rue. Il se baladait avec un ballon de foot comme dans Olivier Tom, un ballon de basket. Il a toujours eu cette aura positive.
Ouais, les auditeurs ne te voient pas, mais moi, je le vois dans tes yeux qu'il y a plein de fierté.
Bien sûr.
Tu nous parlais d'un troisième temps qui avait marqué...
Troisième temps, c'est que ma mère travaillait beaucoup. Et donc, malgré qu'elle travaillait beaucoup, elle voulait quand même que j'aie de bons moments.
Ok.
Et donc, pendant les vacances estivales, elle m'avait inscrit au secours catholique.
D'accord.
En fait, le principe du secours catholique, c'était de prendre des enfants de la région parisienne et de les prendre pour qu'ils s'évadent et de les emmener dans une autre région.
D'accord.
Et donc, moi, pendant très longtemps, même jusqu'à aujourd'hui, hein, parce que maintenant c'est devenu ma famille, j'allais dans des familles d'accueil. Dans la région bordelaise. Donc j'ai commencé à l'âge de 5 ans. J'ai fait une première famille. Après, je ne sais pas pourquoi, je suis allé dans une deuxième famille. Et en fait, cette famille est devenue ma famille. Donc j'y suis allé de 6 ans jusqu'à aujourd'hui.
Donc tu les considères quand même ta famille?
Ouais, c'est ma famille.
Et en quoi ils ont marqué, en quoi ils t'ont marqué et ils ont changé ta destinée?
Ils m'ont... D'une, ils m'ont marqué parce que je pense que sans eux, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Avec cette ouverture, avec ce regard sur le monde totalement... comment dire? En fait, j'ai un regard sur le monde qui est très authentique, qui est très réaliste. Parce que j'avais deux vies. C'est comme si j'avais deux vies. J'avais la vie du petit Parisien, petit Renois parisien, du coup qui est dans un environnement où il y a beaucoup de gens qui lui ressemblent. Et l'été, je partais dans un environnement où, dans les premières années, j'étais peut-être le seul Renois à 25 km à la ronde. Parce que la première grosse ville, c'était Bordeaux, qui était à 25 km. Et donc, j'ai dû grandir comme ça, évoluer comme ça. Donc, j'ai ma famille noire, du coup, parce que... C'est ma famille. Et j'ai ma famille blanche. Mais quand je vous parle de ça, on est dans les années 80. Donc les années 80, c'est pas comme aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les années 80, lorsque t'allais dans un centre commercial, les gens ils te dévisageaient. Parce que t'étais l'un des seuls noirs dans le secteur. Donc moi, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec des petits qui se mettaient devant moi, qui me regardaient, qui voulaient me toucher. Donc c'était particulier, mais ce qui était super, super bien, c'est qu'à aucun moment, cette famille m'a fait ressentir que j'étais différent, en fait.
C'est juste magique. Est-ce que tu veux bien nous planter le décor de cette famille, du coup? C'était un couple, il y avait des enfants, il n'y avait pas d'enfants?
Bah, c'était une famille recomposée. D'accord. On appelle ça comme ça, une famille recomposée. C'est-à-dire qu'il y avait la maman qui avait des enfants d'un premier mariage et le papa qui avait des enfants lui aussi d'un premier mariage. Et ils se sont mariés.
D'accord.
Et du coup, ils ont...
Les enfants vivaient avec les parents qui t'ont accueilli.
Voilà, c'est ça. Donc, c'était marrant parce que c'était comme une famille africaine, en vrai.
Pourquoi tu dis ça?
Parce qu'il y avait plein d'enfants.
Combien?
Franchement, là, si je me mets à compter, il y avait plus de 10 enfants, en vrai.
Ok, donc du coup, tu te retrouves de ta vie de fils unique à une vie de famille.
Ouais.
Et du coup, tu es le plus jeune dans cette famille?
Ouais, je suis le plus jeune.
Okay.
Je suis le plus jeune et ce qui est vraiment fort, c'est que dès le premier jour, en fait, ils m'ont accepté comme si j'étais vraiment leur enfant. Et je me rappelle d'une phrase, c'est que Monique, du coup, la personne qui m'a pris, la maman de la famille, la première des choses qu'elle m'a demandé quand je suis arrivé, elle m'a dit: tu veux m'appeler comment? Maman ou tata?
C'est juste magique.
Ouais. Et du coup, moi je lui ai dit tata, parce que j'avais ma mère, en fait.
Bah oui.
Et ma mère, ça reste ma mère, c'est-à-dire que personne ne peut la remplacer. Mmh. Donc, j'ai dit tata, mais...
Elle a été une deuxième maman.
Ouais, ça a été une maman, ça a été une maman.
Et du coup, le papa... Donc, et comment était Monique, déjà?
Monique, c'était... ce genre de femme à poigne, en fait. Quand je dis à poigne, c'est... là, aujourd'hui, on a beaucoup de débats de, oui, les femmes, l'homme, la place de l'homme, de la femme. Et ben Monique, elle va totalement à l'inverse de ce que dit les réseaux sociaux ou dit la société. C'est-à-dire qu'elle, elle avait sa place.
Ouais, okay.
C'était le boss. Et elle... elle menait d'une main de fer, en fait. Tout ce qui était en lien avec sa famille, vraiment. Après, il y avait Robert, qui était son mari, qui lui, franchement, je crois que j'ai jamais connu une personne aussi gentille.
Ouais, sérieux?
Vraiment, c'est-à-dire que c'était un truc de ouf. Trop gentil, trop. Sur cette planète, j'ai jamais...
Est-ce qu'on peut être trop gentil?
Non, mais sur cette planète, vraiment... J'ai jamais connu une personne aussi gentille. Jamais.
Du coup, tu as baigné dans de l'amour, on peut dire ça?
Ouais. En plus, moi, comme je disais tout à l'heure, moi, j'y suis allé, j'avais 5-6 ans au départ. 5-6 ans. Donc, les gens, quand ils réfléchissent, ils disent 5-6 ans, c'est tout petit.
Ouais, t'es un tout petit bonhomme.
Mais moi, j'étais toujours dans les bras de Robert. En plus, Robert, c'était physiquement, c'était... Il était trapu, costaud, avec une grosse barbe. C'était le Père Noël.
Et c'était ton Père Noël.
Voilà, c'est ça. Et du coup, moi, j'étais toujours là. Il me faisait des gros bisous avec sa barbe et tout. Il me prenait dans ses bras. En fait, eux, ils avaient une grande famille. Et à l'époque, quand je suis arrivé, les derniers enfants, ils avaient peut-être maximum 4-5 ans de plus que moi.
Et qui les derniers?
Il y avait Alex, qui était dans les derniers. Sonia, qui était dans les derniers. Il y avait Karine, qui était dans les derniers. Agnès, Sonia, Karine, Alex. Dominique. Et du coup, très vite, les derniers m'ont choyé. C'est-à-dire qu'en plus, ce qui était marrant, c'est que à chaque été, j'étais le chouchou de... Comment expliquer? C'est-à-dire que... À tour de rôle. C'est-à-dire que, vu que j'y suis allé... toute ma vie, de 6 ans jusqu'à l'adolescence. Après, adulte, j'y suis allé de moi-même. Mais c'est-à-dire que quand j'arrivais un an après, forcément, eux, ils évoluaient parce que c'était des ados.
Mais ouais.
Donc, moi, je les ai vus évoluer, je les ai vus se marier, je les ai vus avoir leurs enfants. Et j'étais le chouchou. C'est-à-dire que moi, je sais que, par exemple, dans les premières années, Agnès qui est devenue ma marraine par la suite, bah, je ne pouvais pas m'endormir sans qu'elle vienne me faire un bisou, par exemple.
Ouais, c'est juste magnifique.
Donc moi, je me couchais, parce que j'étais, bah, quand j'étais petit, et Agnès, elle venait, elle me faisait des bisous. Après, Agnès s'est mariée, donc elle est partie. Il restait Sonia, donc Sonia, pareil. C'est-à-dire que Sonia, c'était le lien que j'avais. Et on était très proches. Donc en réalité, à tour de rôle, j'ai été proche des derniers. Vraiment des derniers enfants de la famille, j'ai été super proche. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, on a un lien qui est pour moi... on ne peut pas le décrire en réalité. Et Karine... en fait, tous, c'est-à-dire que Sonia, Karine, Dominique, Agnès...
T'as eu des liens privilégiés avec
tous. Ouais, j'ai eu des liens privilégiés avec tous, à des moments donnés, en fait.
Qu'est-ce que, la même question, mais de façon plus globale, qu'est-ce que tu retiens, justement, de cette deuxième famille de cœur? Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté et qui t'a transformé, ou en tout cas, qui te sert dans ta parentalité ou dans l'homme que t'es aujourd'hui?
L'amour. L'amour.
Wow.
Parce que même si, après en grandissant, je me suis rendu compte que leur quotidien n'était pas rose en réalité, parce que moi je venais que l'été. Mmh. Donc on arrive l'été dans une autre atmosphère. Nous, donc j'allais là-bas chez eux, et après on va dire que la moitié du temps on était en camping. Donc en plus... dans le sud, c'est pas comme ici, c'est-à-dire que c'est des fêtards, on avait des tablés, c'était les banquets d'Astérix, c'était une dinguerie. Franchement, j'ai passé des moments là-bas magiques, inoubliables, vraiment. Et ce qu'ils m'ont apporté, je pense que c'est l'amour. C'est l'amour parce que le quotidien à Paris, il était particulier. Parce que Paris, c'était mon quotidien. Parce que c'était difficile. Comme je le disais, ma mère, elle a trimé. Vraiment pour nous donner une bonne éducation avec mon oncle. Parce que du coup, vu qu'on a que 5 ans d'écart, elle l'élevait comme si c'était son fils en vrai, alors que c'était son frère. Donc, c'était pas facile. C'était pas facile. Parce qu'on a vécu des moments compliqués, mais après, ça forge. Mais là-bas, en réalité, c'était l'amour. L'amour et comment on peut dire ça? C'est que l'ouverture aussi. L'ouverture parce que c'est une famille blanche. Je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais c'est une famille blanche. Moi, je suis noir. Et du coup, le fait d'aller dans une famille qui est différente, qui n'a pas la même culture, qui n'a pas forcément les mêmes fonctionnements surtout, ça t'ouvre l'esprit. Ça te fait voir d'autres mécanismes. Et je pense que si j'avais pas été là-bas, peut-être que je serais un peu plus fermé.
Ok. L'enfance passe, l'adolescence. On fera peut-être un parallèle avec ton adolescence et l'adolescence de tes enfants. Est-ce que tu t'imaginais parent? Est-ce que Anne, dans l'adolescence, jeune adulte, il disait, moi, quand je serai un papa, est-ce que je serai un papa déjà?
Ouais. Oui, ça, j'ai toujours été convaincu, moi, que j'allais être papa. Et même au début, c'est un peu bizarre, hein, mais je me disais, ouais, que j'allais être un papa, mais que j'allais pas avoir de femme.
Un peu le modèle que ta mère a pu connaître à des instants de sa vie?
Peut-être inconsciemment, mais c'est vrai que c'est bizarre, hein, mais je me voyais papa. Mais pas forcément avec quelqu'un.
Ok, tu visualisais pas ta femme?
Ouais, je la visualisais pas.
Ok.
Et même très longtemps, je disais, ouais, je vais pas me marier. Ouais, moi, j'ai
t'as menti, quoi.
J'ai longtemps été sur cette ligne-là, en fait.
D'accord. Donc, tu t'imaginais papa. Est-ce que, à cet instant précis, tu te disais, moi, je serais tel genre de papa ou pas du tout?
Non.
Ok.
Non. J'étais pas dans la projection forcément de me dire je vais être comme ci, je vais être comme ça, non.
Arrive le moment où ton choix se porte sur une dame. Mm-hmm. Tu racontes, je suis une grosse gamine, donc je veux tout savoir, même si je sais tout.
Ouais, après, moi j'ai comment dire, Moi, je suis quelqu'un de base. Déjà, je suis pas quelqu'un qui a eu beaucoup, beaucoup d'aventures. Parce que moi, je suis sûrement un amoureux dans l'âme. C'est-à-dire que je sais où je veux aller. Et donc, je n'ai pas forcément ce besoin de multiplier les choses pour pouvoir me convaincre. Donc ouais, après, ma femme aujourd'hui, que tu connais...
Sérieux.
C'est une personne qui vivait dans la même ville que moi, qui est plus jeune que moi, mais que je croisais souvent. C'est-à-dire que lorsque j'étais avec... des copines, des ex-copines, et bah je sais pas comment ça se fait, je la croisais tout le temps.
Elle était tout le temps sur ton chemin.
Ouais, tout le temps.
Tu la traquais.
Et non. En fait, on peut pas dire que je la traquais parce que moi j'étais accompagné. Et même étant accompagné, je la croisais dans des lieux dans les transports. Dans des fast-food, au cinéma, je tourne la tête, elle est là. Mais vraiment des trucs. Et je me rappelle, à des amis de l'époque, je leur disais, mais c'est bizarre, la petite, là, je fais que de la croiser. Et il s'avère que des années après, en fait, on s'est retrouvés quand j'ai commencé à faire de l'animation, quand j'ai commencé l'animation même, dans le même centre. C'est-à-dire que on me prend dans l'animation, dans ma ville, et le centre pour lequel je travaille, et bah elle est en stage. Donc là, je me dis, mais c'est quoi ce truc de fou? Déjà, je la croise tout le temps. Et là, j'entame un métier, du coup. Et elle est là. Donc après, ce qui s'est passé, c'est que on a fait connaissance. Je crois que des années sont passées encore. Et à un moment donné, on a dû travailler ensemble. On s'est plus ou moins rapprochés. Et j'avais des vues sur elle au final, parce que ça m'intriguait et tout. J'avais des vues sur elle et j'ai monté un stratagème avec mon cousin Maxime.
Escroc.
Pour la faire partir avec nous en colo. C'est-à-dire que c'était une période où moi je partais beaucoup en colonie l'été pour me faire de l'argent. Et mon cousin Maxime était directeur et je lui ai suggéré le profil de ma future femme du coup.
Et c'est à ce moment-là que vous mettez en couple ? Pendant la colo, comme dans Nos Jours Heureux ?
Non. En fait, on se met en couple. On se met en couple. On va dire que on flirte, si on appelle ça comme ça. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Juste avant la colo. Mais en fait, ce qui se passe avant la colo, c'est que lorsqu'il se passe un petit bisou comme ça de jeune adulte, et bah tout de suite, moi, je lui dis, écoute. On se connaît, on a des gens en commun, on vient de la même ville. Si on se met ensemble, c'est pour faire quelque chose de sérieux. En fait, c'est ce que je lui dis. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, je rappais, j'étais un peu dans la musique et tout. Et je lui dis, t'as vu, moi c'est comme ça, pas autrement. Je vais peut-être pas avoir de temps pour toi et tout. Je fais un peu le mec. Et du coup, on part en colo. Durant la colo, il se passe rien, je crois. Pendant la colo, il se passe rien pendant la colo. Et c'est plus en revenant de la colo, parce qu'on est quand même parti, je crois, cette colo 21 jours. Durant la colo, je crois, il se passe rien. Même, je crois même qu'on est en brouille pendant la colo. Et au final, c'est en revenant de colo que les choses se font et qu'on décide de se mettre ensemble. Et ça fait 20 ans que je la supporte.
Heureusement que c'est... ta parentalité qu'on raconte, je vais pas commencer à te répondre. Puis arrive la première grossesse.
Ouais.
Déjà, juste avant de parler de la première grossesse, est-ce que y a quelque chose de marquant dans la relation de ta femme et de ses parents ? Est-ce qu'ils sont en relation ? Est-ce que c'est une relation où il y a de la communication, pas de communication, de l'amour, pas d'amour ? Pour qu'on comprenne un peu après le cheminement avec les enfants.
Non, à la période où je rencontre ma femme, du coup, ses parents sont séparés. Donc elle vit qu'avec sa mère. avec ses petits frères et sœurs, du coup. Donc non, je crois qu'avec son père, il n'y a pas forcément de lien. En tout cas, elle ne le voit pas souvent, de ce que je me souviens.
Elle est au Sénégal, là, c'est pas...
Et du coup, avec sa mère, non, fusionnel. C'est fusionnel.
Ok. Arrive la naissance, enfin en tout cas la grossesse de votre premier enfant. T'as combien d'enfants, Barberiche ?
J'en ai 3.
Quel âge elles ont ?
15, 13 et 11.
Ok. Donc, tu nous parles des 3 grossesses comme tu veux par rapport aux éléments qui t'ont marqué, mais le moment des grossesses, comment ça se passe ? Est-ce que t'es un papa qui te sent papa dès l'annonce de la grossesse ? Est-ce que t'es un papa qui te sent papa qu'à la vue de tes enfants ? Comment ça se passe ?
Non. En fait, moi, je me sens papa dès qu'on sait que le bébé va arriver. Dès qu'il y a le test et qu'on sait qu'on voit qu'il est positif, ça y est. Comme si je me transforme au moment du résultat.
Et est-ce que tu veux bien nous raconter comment tu as vécu les grossesses, comment tu as pu accompagner ta femme, est-ce que tu as eu des angoisses, raconte-nous tes...
Ouais. La première grossesse, elle est très angoissante parce que du coup, c'est la première. C'est la première, donc on est forcément dans un stress. Dans un stress de savoir comment va être le bébé. Je me rappelle que nous, on voulait aller faire des échos toutes les semaines parce qu'on avait l'impression qu'on allait voir le bébé toutes les semaines. Donc, on forçait un peu pour qu'on ait cet écho qui nous permette de voir et de connaître le sexe parce que c'est l'un des moments les plus attendus, le fait de connaître le sexe de son enfant. Donc, je sais que ça, c'était drôle. Et ouais, Neila, ça a été particulier. Parce que comme c'est le premier, on a toutes les angoisses. Parce que y a les tests pour savoir si l'enfant est porteur de handicap ou pas. Tout ce qui est contraction, tout ce qui est envie, le changement du corps, les humeurs. Donc c'est vrai que pour Neila, ça a été les premières fois pour tout. Donc, les envies, je me rappelle, c'était quoi ? C'était des opéras, je crois. Il fallait aller chercher des opéras en pleine nuit, tout ça. Moi, je croyais que c'était pas vrai, ces histoires d'envie. Mais je me suis bien rendu compte que c'était réel. Donc, ouais, et là, ça a été particulier. En plus, elle devait sortir par voie basse, mais finalement, ça a été une césarienne. Donc, comme ça n'avait pas été préparé psychologiquement, j'ai pu assister à la césarienne. Donc, c'est vrai que l'accouchement de Neila, ça a été particulier. Ça a été vraiment particulier, vraiment par rapport à ça. Parce que j'ai assisté à l'accouchement et c'est vrai qu'à son premier cri, du coup, vu que l'attente a été longue, et ben j'ai lâché ma petite larme.
Waouh !
De crocodile.
Les deux autres grossesses se passent comment ?
Iliana, ça se passe bien, de ce que je me souviens. Mais je crois que Imani, c'est un peu plus compliqué. Parce que je crois qu'il y a des complications. Elle a été hospitalisée, je crois. Donc c'est vrai qu'Imani... ça a été un peu plus compliqué quand même. Ça a été difficile, Imani. Si je me rappelle bien, le fait d'être à l'hôpital avec son enfant, c'est compliqué quand même. C'est vraiment un moment... maintenant, c'est lointain, mais je me rappelle que c'était quand même difficile. Ouais.
Arrive, donc tu nous as parlé des grossesses. Est-ce que tu as des angoisses ? Est-ce que tu as des questions ? Est-ce que c'est fluide pour toi ? Comment toi, tu le vis en tant que futur papa ? Déjà dans un premier temps pour l'arrivée de ton premier enfant, parce que là c'est l'inconnu, et puis ensuite pour les deux et troisième. Comment tu appréhendes les choses avant la venue au monde ?
Est-ce que vous questionnez ? De ce que je me souviens, parce que maintenant c'est vrai que ça fait longtemps maintenant, je suis pas forcément, j'appréhende pas forcément en réalité. On attend que ça arrive. En tout cas, on prépare l'arrivée.
Ouais, voilà. Est-ce que tu te questionnes? Est-ce que vous vous projetez? Est-ce que vous commencez à délimiter le cadre pour ces enfants qui vont naître? Ou est-ce que vous étiez plutôt des parents, quand elle sera là, on se posera les questions?
Ouais, je sais plus. Je pense que c'est un mix des deux. C'est un mix des deux. Il y a des choses que tu vas faire sur le tas. Et il y a d'autres choses, oui, que tu vas imaginer.
Comme quoi, par exemple?
Que tu vas projeter. Déjà,
je crois que vous avez des familles de confessions différentes.
Ouais.
Est-ce qu'on peut s'arrêter sur ça? Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, que vous appréhendez avant l'arrivée des bébés, dans le choix des prénoms, dans la religion?
Déjà les prénoms musulmans, déjà, dans un premier temps. Donc c'est vrai qu'après, il a fallu qu'on choisisse. Donc je me rappelle que Neila, c'est moi qui l'ai trouvé, je crois. Iliana, je crois que c'est toi qui l'as trouvé, je crois, Iliana. Et après, Imani, c'est ensemble, on trouvait que c'était joli. Dans notre famille, il y avait une personne qui s'occupe de la chanteuse Imani. Donc, c'est ce qui nous a inspirés.
Et du coup, comment c'est accueilli dans les familles, dans ces deux familles? Parce que du coup, il y a votre socle familial où vous faites le choix d'une religion, mais il y a les familles qui... On ne convertit pas toutes les familles.
Après, c'est comme dans toutes les familles. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, je pense, dans toutes les familles... Surtout lorsqu'on parle de deux religions totalement différentes, il y a toujours un côté qui appréhende, qui a peur que l'autre côté prédomine sur le sien, toujours. Ou en tout cas, si ce n'est pas dit, c'est pensé. Donc il y a eu ces petites craintes, ces petites interrogations, plus de mon côté, parce que c'est vrai que... de mon côté, ils sont chrétiens et il y a toujours cette crainte, oui, les musulmans, le grand remplacement. donc il y avait cette crainte au départ. Mais la réalité, c'est que moi, je suis dans une famille très ouverte, en réalité. Donc dès lors qu'ils se sont rendus compte que la famille qui était en face était bienveillante, après, il n'y a pas forcément eu de problème.
Et du coup, pour le choix par rapport à l'éducation que vous offrez à vos filles, elles ont conscience de cette diversité dans culturelle, religieuse et autres, coutumière.
Bien sûr. De toute manière, vu que dans les deux familles, c'est présent. Mmh. C'est présent et ça a une place importante. Donc forcément, lorsqu'elles vont de part et d'autre, elles voient bien que ce n'est pas la même chose. Donc, à la maison, c'est l'islam, c'est musulman. Après, il n'empêche que lorsqu'elles vont chez ma famille paternelle, c'est chrétien de toutes parts. Mm. Questionne pas, elles s'adaptent. Et que ce soit les mamies, les papis, les tontons, en vrai, ça pose pas de problème maintenant. C'était au départ. Au départ, c'était un peu particulier parce que c'était l'inconnu. Et comme je le disais, on a toujours cette crainte de... y a un côté qui va prédominer sur l'autre ou un côté qui est malveillant. C'est surtout ça, en fait. Mais dès lors que tu vois qu'en réalité...
Dans le modèle éducatif, il y a de la bienveillance. Ça fonctionne. Enfin, il n'y a pas eu, dans le modèle éducatif, dans le cheminement des enfants, dans leur accompagnement à la spiritualité, etc. Éducativement parlant, en tant que parent, c'était fluide ou c'était compliqué? Vous avez dû aller chercher des ressources ou s'est fait de façon innée?
Non, en fait, là où ça a été compliqué, ça a été plus avec les adultes.
Okay.
Pas les enfants, c'est les adultes.
Dans l'éducation des filles, ça a collé,
Oui, c'est avec les adultes. C'est-à-dire que nous, les problèmes qu'on a pu rencontrer, c'est avec les adultes. Parce que nous, dans notre positionnement, il est clair. C'est-à-dire que moi, mon positionnement, il est clair. Ton positionnement, il est clair. Et du coup, en plus, on a toujours été très ouverts en réalité. C'est-à-dire que là, elles sont dans une religion... Après, elles baignent en vrai dans deux religions en réalité. Quand je dis elles baignent dans deux religions, pas dans notre maison, mais en étant à l'extérieur.
Ouais, au quotidien,
en étant à l'extérieur, avec la famille du côté paternel, avec certaines tantes, des marraines.
Quand elles vont à Bordeaux.
Quand elles vont dans ma famille à Bordeaux. Donc du coup, elles vivent en totale harmonie avec les deux. Mmh. Franchement, pas on de problème
revient,
avec ça.
On revient 30 secondes sur l'arrivée de tes filles. Est-ce que tu te souviens de des premières rencontres ?
Avec ?
Tes enfants.
Avec mes enfants ? Mmh. Ouais, je me souviens. Je me souviens, bah... Première rencontre, c'est quand tu les prends dans les bras, quand elles décident de sortir. C'est quand tu les prends dans les bras. Et c'est. Bah en fait, c'est particulier parce que, vu que moi, j'ai grandi en fils unique, le fait d'avoir des enfants, c'est très important pour moi. Le fait de voir des ressemblances, le fait de voir des attitudes, le fait de voir de la filiation. C'est super important. Donc oui, forcément, à chaque fois que tu prends ton enfant dans les bras, tu te dis, mais il me ressemble, il me ressemble pas. Donc on est beaucoup là-dessus, en vrai, en réalité.
Et émotionnellement parlant ?
Non, c'est fort, c'est fort. Moi, pour moi, il n'y a pas plus fort.
T'as pleuré, non ?
Bien sûr. Mais moi, je pleure même des fois devant des films, donc je m'en fous de dire que j'ai pleuré pour mes enfants. Moi, j'ai pas ce problème-là, moi.
C'était pas dans ce sens-là, mais tu disais que c'était... Il n'y a pas pareil, en fait, comme émotion. Comme...
Non, il n'y a pas... En fait, y a... Moi, pour moi, tu peux avoir de l'émotion pour d'autres occasions, mais je pense que l'émotion suprême, c'est quand tu as un enfant. Quand tu donnes la vie, en fait. Pour moi, c'est l'émotion suprême.
Pour toi, ça a été ça.
Je pense. Mmh.
Tu rencontres tes enfants, vous êtes à la maternité, le retour à la maison. Comment se passe le retour avec des tout petits bouts de choux ? Comment toi, en tant que père, parce que ce qui va nous intéresser là, c'est toi, ton positionnement en tant que papa, comment tu rentres à la maison ? Est-ce que tu as l'impression, ça y est, que tu as une mission, une responsabilité ? Qui décide ? Comment les choses se coordonnent ? Comment ça se passe ? Rentrer à la maison avec un tout petit être ?
Bah, c'est là où tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Bah ouais, parce que tu vois, quand tu es à l'hôpital, t'es à l'hôpital. Et à l'hôpital, t'es pris en charge. Donc t'es pas face à la réalité de parents, où là, l'enfant, il est vraiment sous ta responsabilité. Alors que lorsque t'es à l'hôpital... Il est encore sous la responsabilité de l'hôpital et du coup du personnel hospitalier. Donc c'est vrai que quand tu rentres et que tu t'assois, tu dis, ah ouais, là, j'ai pris perpète. Mmh. Et du coup, ça responsabilise. Parce que maintenant, tu peux plus ne penser qu'à toi. Même si nous, on n'a jamais été là-dedans en réalité, on a toujours été très altruiste. Mais... tu ne peux plus penser qu'à toi. C'est-à-dire que ce qui est fort dans le fait d'avoir un enfant, c'est que c'est comme si tu prêtais serment de tout faire pour faire en sorte que cet enfant grandisse correctement.
Mmh. Et c'est important ce que tu as dit, c'est intéressant quand tu dis, bah, en fait, à l'hôpital, on est encadré, etc., on rentre, mais en vrai, c'est une formation flash, faut dire ce qu'il y a, c'est-à-dire que pendant 3 jours, on t'explique, après, bon, souvent, on a lu avant, il y a les cours qui sont préconisés, mais c'est une formation extra rapide, il n'y a pas d'école des parents et non, encore moins.
Si,
de...
Tu sais, c'est comme si on t'apprenait à nager en te mettant un coup de pied aux fesses.
Exactement.
Allez, plonge.
Et du coup, comment ça se passe à la maison ? Est-ce que c'est difficile ? Est-ce que vous avez des bébés qui dorment bien ?
Non, tu sais, c'est...
L'harmonie.
Ouais, mais en vrai, ça n'a pas été difficile. Je m'explique. C'est-à-dire que dans nos vies respectives, dans la tienne et la mienne, on s'est toujours occupé de plus jeunes que nous. Mmh. On a toujours eu soit des cousins qui étaient bébés, du coup, dont on s'est occupé très jeune, ou des petits frères, pour toi. Donc, lorsqu'on a notre enfant, on va dire qu'on a déjà eu de l'entraînement, plus ou moins. Après, bien entendu, que chaque être est différent. Donc oui, il a fallu s'adapter. aux pleurs, au caca. Il a fallu s'adapter à tout ça en réalité.
Aux nuits.
Mais si je me rappelle bien, Neila faisait ses nuits. Neila nous embêtait pas beaucoup. Donc ça va, on a été épargnés. Je crois que c'est Iliana qui, comme aujourd'hui, hein, braille. Mais.
On va dire papa, c'est pas gentil.
Ça, c'est sûr. Mais oui. Vraiment, nous, on avait déjà eu un entraînement, si je peux dire ça comme ça. Après, c'est juste des petits réajustements que tu dois faire en fonction de l'enfant qui était là en face de nous. Mais.
T'avais l'impression que ça a roulé comme si c'était inné.
Ouais. Bah, pas inné. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est que nous, on est déjà passé par là en réalité. Mais ce n'était pas nos enfants, mais on est déjà passé par là. Mmh. On a géré des cousins, des petits frères, des petites sœurs, donc, qui sont nettement plus jeunes que nous.
Ou qu'on a vu naître.
Donc là, c'est le tien. Mmh. Donc c'était pas, on n'était pas étrangers à ce genre de fonctionnement-là, de s'occuper d'un bébé ou autre, non.
Aujourd'hui, je crois... Je sais que tes enfants sont dans l'adolescence.
Yes.
Quel âge elles ont ?
15, 13 et 11.
Ok. Juste avant ce passage à l'adolescence, donc dans l'enfance, est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites, qui à ton sens sont importantes et que tu aimerais partager ici ? Des moments clés, des prises de décision, des moments peut-être qui ont été difficiles ? Je sais pas.
Moment clé. Il y a un moment. Le premier moment clé, je pense que c'est. Lorsqu'on doit se mettre en congé, c'est congé parental qu'on appelle ça. Et bah pour la deuxième,
enfin, c'est le congé maternité, paternité ou parental.
C'est ça. Et bah pour la deuxième, c'est moi qui reste.
C'est toi qui reste, c'est-à-dire
à la maison.
Qui t'occupe de ton enfant.
C'est ça.
Tu nous racontes.
Et bah toi, tu devais. Bah en fait, je crois, hein, parce que ça, c'est tellement lointain et ma mémoire flanche, mais en fait, toi, tu venais de partir de la mairie, je crois, et du coup, tu embrassais une nouvelle carrière et il fallait faire un choix. Il fallait privilégier l'un de nous en fonction de sa carrière. Et donc, pour moi, il était évident que c'est toi qu'on allait choisir, parce que pour moi, à l'époque, ta carrière était plus importante que la mienne. Et donc, on a fait le choix de que toi, tu ailles travailler.
C'est Mimi.
Pour que tu avances, que tu évolues, tu montes en compétences, et que moi, je reste à garder notre deuxième enfant.
Du coup, toi, tu bouleverses cette posture de...
Bien sûr.
Les hommes à la maison avec les bébés, donc c'est toi qui prends ce congé paternité. Tu restes pendant combien de temps avec ta fille?
Franchement, je sais plus.
Avec Lily?
Je sais plus.
Un an, quasiment.
Je sais plus, mais en tout cas, tu vois, tu me dis un an, mais j'ai l'impression que c'est plus court. Mais moi, j'ai kiffé, moi. Moi, je suis... Bon, maintenant, elles sont grandes, hein, donc on est dans une autre config, mais moi, ça me dérange pas, moi, de rester chez moi... À m'occuper de mes enfants, ça ne me dérange pas. Dès lors que ça ne met pas en péril le foyer et qu'on a des revenus suffisants pour vivre convenablement, moi, je reste à la maison, je m'en fous. Moi, je n'ai pas ce problème-là. Il y a beaucoup de débats, les hommes, ceci, cela. Moi, je n'ai pas ce problème-là de revendiquer quoi que ce soit. Moi, je pars d'un principe que lorsqu'on se met en couple avec quelqu'un, c'est pour former une équipe. Et une vraie équipe. On n'est pas, on fait pas de l'individuel dans du collectif. C'est une vraie, c'est un vrai. On est vraiment dans du collectif et du coup, dans le collectif, on
s'entraide.
On s'entraide et on choisit. Et on choisit aussi celui qui peut nous faire gagner.
Oui, c'est vrai.
Bah oui. Par exemple, là, on va prendre l'exemple du PSG. Et bah les mecs, ils savent que c'est Mbappé qui les fait gagner, donc ils jouent pour Mbappé. Ouais. Même si on a certains que ça frustre, mais l'idée, c'est de gagner. Donc, on joue sur Mbappé. Et donc, à cette époque-là, moi, j'ai joué sur toi.
Et du coup, ça a payé ses fruits parce
bien
que
tu
as pu vivre des moments magiques avec ta fille. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué dans justement cette... Alors, en plus, tu as Iliana donc, qui vient de naître, mais tu as aussi Neila qui a deux ans.
Là, ouais.
Alors, ta vie de papa, là, pendant cette période
Attends, Iliana, elle était née. Parce que c'est vrai que quand Neyla est née, donc pendant 2 ans, j'avais pas de permis.
Exact.
Donc, c'était chaud. Parce que nous, on travaillait sur Villepinte. On habitait à Villeparisis. Donc, il fallait prendre les transports. Alors que Villepinte, en voiture, c'est à 5 minutes. Mais là, en transport, c'était des 1h, 1h30. Pas de voiture, la neige, la pluie, les poussettes. Il y avait les deux. Donc, ça a été une période pas facile. Hein.
Heureusement, il y avait le portage.
Mais c'était pas facile. C'était pas facile. Hein. Franchement, c'était dur. C'était dur d'avoir les deux. En plus, on les a quand même eus jeunes, en réalité. Donc, et en plus, on fait jeunes, de ce que disaient les gens. Donc, c'était dur, mais...
C'était du n'importe quoi.
Mais ça nous a forgé et maintenant on est soulagés en réalité.
Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi, du coup, avec 2 bébés? Est-ce que c'était l'organisation? Est-ce que c'était la gestion du quotidien? Les repas, les bidons, les douches?
Non, le plus dur, c'est les déplacements.
Pour toi, c'était les déplacements?
Ouais, moi, c'était les déplacements. Après, le reste, non, après, le reste, ça allait. C'était plus les déplacements parce que, en plus, vu qu'ils sont en bas âge, il faut les poussettes, il faut prendre les affaires, les sacs. Non, c'est compliqué.
Et éducativement parlant, du coup, t'étais le papa qui t'en occupait et qui portait une attention à leur éveil, ou est-ce que t'étais juste la nounou,
non.
Je te donne à manger, je te couche, je veille à ce que tu te fasses pas mal.
Non, moi, mes enfants, je joue avec mes enfants. Je fais tout avec eux. Je fais tout, même jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui... Moi, je les embête, je les taquine, je danse, je suis toujours en train de les embêter en réalité, tout le temps, parce que je pense que même si je garde ma posture de papa quand même strict, sévère, dur, mais elles savent que malgré tout, papa quand même, il reste ouvert et on rigole bien avec lui.
T'es un fils.
On rigole bien avec lui.
Tes enfants grandissent, il y a l'arrivée d'Imani, 2 ans après l'arrivée d'Iliana. Et du coup, la question que beaucoup se posent, c'est qu'est-ce qui est le plus difficile, de passer de 0 à 1, 1 à 2 ou 2 à 3 enfants? Est-ce que pour toi, il y a un moment où c'est plus difficile qu'un autre, la gestion des enfants? Tu fais partie de ceux qui disent que le passage de 1 à 2, c'est compliqué, ou la troisième, c'est fluide?
Franchement, moi j'ai pris comme c'est venu, en vrai. J'ai pas... Comment dire? Comme je dis, c'est les déplacements. Ce sont les déplacements qui sont compliqués quand t'as plusieurs enfants.
Non, mais la vie quotidienne, quand même, elle change. Quand t'as 3 enfants, ouais. de 4, 2 et un nourrisson...
Ouais, mais j'ai... En fait, j'ai pas des souvenirs de cette difficulté.
Ok, donc tu l'as bien vécu, bien digéré.
C'est pour ça que je dis ça. C'est que moi, vraiment, si je dois avoir des souvenirs, ou mauvais, ou vraiment qui m'ont marqué, c'est plus les déplacements.
Fallait passer ton permis plus tôt, en fait.
Quand tu dois te déplacer et que tu as des enfants en bas âge, parce qu'en réalité, Neyla, elle peut avoir 6, l'autre, elle a 4, l'autre, elle a 2. La première, elle a que 6. Donc... c'est compliqué.
Faut tout gérer.
Donc c'est les déplacements. Après le reste, dans mes souvenirs, j'ai pas.
En termes de décision, comment ça se passe à la maison avec 3 filles, 3 adolescentes? Comment vous trouvez une harmonie éducative? Est-ce que vous trouvez une harmonie éducative avec les filles dans le fonctionnement, les règles, les sanctions?
Comment dire, harmonie éducative, on a mis des règles dès le départ.
Et comment vous avez décidé d'instaurer ces règles avec vos filles? Comment vous avez procédé, vous?
Ouais, mais c'est venu naturellement. Je sais pas, en fait, il y a des choses qui sont... en fait, nous, comment on fonctionne, c'est qu'il y a des choses qui se font de manière naturelle. On n'a pas forcément besoin de dire oui, c'est comme ci, c'est comme ça, tu fais comme ça, tu fais... En fait, je pense que les choses, en fait, on les laisse évoluer, on les observe, et si on veut réajuster, on réajuste. Mais nos enfants, elles ont beaucoup de liberté. Elles ont beaucoup, beaucoup de liberté quand même, je trouve. Parce qu'on a la chance d'avoir des enfants quand même qui sont responsables. Et qui ne font pas de bêtises trop. Ou ça ne reste que des chamailleries en réalité. Mais elles ne font pas forcément de bêtises. Et qui sont des enfants qui sont à l'écoute. Elles sont à l'écoute. Donc on est juste dans le réajustement. Ou des fois... ouais, y a des périodes où tu rappelles à l'ordre, mais sinon, ça coule. Hein. Moi, dans l'éducation des petites, on n'a pas forcément de difficultés, de grosses difficultés. Après, là où on va rencontrer des difficultés, c'est même pas sur le comportement des petites. C'est plus...
sur l'émotionnel.
Sur les émotions. C'est-à-dire qu'on a des filles... On a des filles qui sont très empathiques. Et donc, c'est plus dans les émotions. On parle beaucoup des émotions. Les discussions qu'on a lorsqu'il y a des problématiques qui se présentent, c'est souvent dû à la gestion des émotions.
Du coup, on va un peu s'arrêter sur ça parce que c'est un sujet qui concerne beaucoup, beaucoup de parents. Nous, pour le coup, on est sur deux profils émotionnels différents sur les trois. La dernière est un peu plus... pour l'instant, c'est l'insouciance. Hypersensible. Et une autre enfant qui intellectualise trop. Et du coup, comment vous travaillez ça avec les filles? Déjà, comment ça se manifeste chez vous? L'hypersensibilité, plutôt il y en a, le fait d'intellectualiser tout, les relations avec ses pères, etc. Comment ça se passe à la maison chez vous, chez nous, pour le coup, selon toi, dans l'accompagnement de la gestion des émotions des filles?
Bah, déjà...
C'est un gros sujet quand même.
Ouais, c'est un gros sujet, mais déjà, on est très observateurs. Je pense que c'est très important. C'est-à-dire que nos filles, lorsqu'elles rentrent, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est la première des choses. Donc, dès lors qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on questionne. Donc, forcément, on se heurte à un mur. Mais nous, on est maçons, on a des marteaux de piqueur, le mur. On essaye de le fissurer pour essayer de savoir ce qu'il y a derrière. Donc on est très... et après, le rapport que nous avons avec nos enfants nous permet aussi d'aller les chercher. Même si parfois, elles ne veulent pas parler parce que elles ne sont pas encore prêtes à parler. Mais on arrive toujours au final à discuter de la problématique et... On répond à leurs interrogations le plus simplement du monde, en réalité. Parce qu'on a un tel lien avec nos enfants. On parle beaucoup avec nos enfants, on fait beaucoup de choses avec nos enfants. On est souvent avec nos enfants. Donc c'est ce qui permet de très vite pouvoir nouer le dialogue avec.
Et quel outil vous utilisez et tu pourrais recommander à des parents justement qui peuvent être dans ces cas de figure où les émotions sont un sujet parce que pour ma part c'était un sujet et quels sont les outils que tu pourrais préconiser ou conseiller à d'autres parents d'essayer les différents outils ou les différents professionnels auxquels vous avez pu faire appel?
Ben, on a fait appel à des psys.
Ouais, pédopsies.
À des sophrologues.
Ouais.
Après, on a pu faire appel aussi à des proches.
Ouais, beaucoup.
Qui ne sont pas forcément professionnels du domaine, mais qui peuvent faciliter la libération de la parole. Ouais. Parce que c'est une histoire de confiance. En fait, même lorsqu'on va voir un psy, en fait, le psy, il ne fait pas grand-chose. Il nous écoute seulement. Parce que peut-être que dans notre sphère familiale ou amicale, il n'y a personne qui... ou en tout cas, on a l'impression qu'il n'y a personne qui peut comprendre nos problématiques.
Après, il nous pousse aussi à nous questionner.
Oui, mais quand je dis, quand je dis qu'il ne fait rien, c'est que...
Parce qu'on paye 30 ans de...
On paye les 50 ou les 70 euros. Il est assis sur son fauteuil. Il t'écoute, il va te dire deux phrases et après il va te dire à la semaine prochaine.
Non, mais attends, tu fais un raccourci, je peux
non,
pas
mais
te dire ça. Bon.
C'est, mais...
mais non, il fait bien plus que ça quand même. Il t'analyse, il t'accompagne,
oui,
il permet
mais,
de te remettre en question et puis du coup, il accueille la parole avec une attention et un tact que des fois, nous, on n'a pas.
Ouais.
C'est un métier quand même.
Après, ça dépend de... Après, moi, c'est...
On fera un débat parentalité sur le sujet.
Après, moi, c'est l'image que j'en ai, même si, oui, ils font beaucoup de choses, mais bon, c'est un autre sujet.
Ils livrent les jeux.
Ouais, ouais, ouais. Après, moi, de toute façon, moi, pour moi, c'est dédramatiser, relativiser. C'est ça le mot d'ordre. Parce qu'aujourd'hui, je pense que dès lors qu'on dédramatise, on relativise, eh ben, y a beaucoup de choses qui passent plus facilement. Il y a beaucoup de choses qui nous heurtent moins. Donc je pense que c'est important d'échanger au maximum et de faire prendre conscience à nos enfants que, en réalité, pas que rien n'est grave.
Non, parce que c'est...
Mais qu'en tout cas, il y a plus grave.
Après, c'est un parti pris très masculin parce que il y a aussi le fait que
demande mon avis.
Oui, mais justement pour les parents qui nous écoutent, ce côté de des fois pouvoir de minimiser la souffrance ou
non, relativiser et dédramatiser, c'est pas minimiser.
Bah ouais, mais des fois, tu dédramatises un truc pour l'enfant à l'instant T. C'est
non,
une
mais
montagne,
quand,
c'est,
non, mais quand je dis.
C'est insurmontable.
Oui, mais.
Et juste le fait de dire
oui,
c'est
mais,
pas si grave.
Oui, mais non, c'est pas ça. Je te dis pas c'est pas si grave pour. Qu'est-ce que t'as employé comme mot tout à l'heure? Pour.
Minimiser.
Dédramatiser, par exemple. Pour minimiser. Minimiser. Moi, je dis pas ça pour minimiser. Parce que. Chacun sa douleur, chacun ses émotions. Donc moi, je peux pas être dans ton corps et te dire ouais mais non, t'en fais trop.
Non mais des fois les papas vous aimez bien dire ouais mais c'est rien ça.
Non, attention. Quand on dit c'est rien, c'est pas pour dire que tu ne ressens rien. C'est rien par rapport à.
Ouais, je comprends.
Tu comprends ? Et du coup, on essaye de mettre ça sur le même pied que quelque chose d'autre pour montrer que. Oui, ça touche, c'est quelque chose, mais que il y a plus grave. Ou en tout cas,
parce
on
ne
doit pas
leur,
faire tout.
De
on,
leur prisme d'ado,
voilà, on
ne
doit, voilà, doit pas faire tout.
Que...
On, c'est pas la peine, en fait, de te faire du mouron, d'être dans cet état. Tu vois, il y a d'autres choses. Tu sais, en fait, il faut toujours voir les choses de manière positive, en réalité. Parce que si aujourd'hui, on s'arrête là et on observe, on se tire une balle dans la tête, en réalité. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours relativiser, dédramatiser, pour pouvoir avancer.
Du coup, ça, c'est un dossier, parce qu'il faut apprendre ça à nos enfants, du coup.
Bien sûr. Dans le dialogue, dans la discussion, dans l'échange.
Est-ce que tu as un souvenir d'un gros désaccord éducatif que tu as pu avoir concernant les enfants, quelque chose sur lequel tu es soit un désaccord vécu ou soit un sujet qui, quand tu te projettes dans les années à venir, où tu te dis là, il va y avoir un désaccord certain.
Ouais, on a eu des désaccords par exemple sur les cadeaux. C'est-à-dire, non, c'est une réalité. C'est-à-dire que moi, je suis pour offrir des cadeaux à mes enfants, mais pas les submerger de cadeaux.
Coupable.
C'est-à-dire que, ouais, je vais offrir, je vais gâter mes enfants, mais je peux les gâter, par exemple, avec un cadeau, deux cadeaux. Parce que ça va être des cadeaux d'envergure ou pas, mais
En
tout cas, je ferai en sorte de donner le cadeau qui fera que mon enfant sera heureux et comprendra la symbolique en fait du cadeau que j'aurai offert selon l'événement, selon la cérémonie, l'occasion. Maintenant, j'ai une femme.
J'ai dit coupable.
Qui elle est capable d'acheter 30 cadeaux. Donc, quand c'est Noël, il faut déballer les 30 cadeaux. Alors qu'on sait pertinemment que ces cadeaux, au bout de deux semaines, ils vont être sous le lit et ils vont servir à rien. Donc, moi, je ne suis pas là-dedans. Donc, c'est vrai qu'on est souvent dans des désaccords à ces moments-là parce que je me dis que d'une, c'est du gaspillage parce que.
Ça ne sert à rien.
Parce que les enfants, à un moment donné, les cadeaux, ils vont les mettre sous le lit, ils ne vont plus les utiliser et c'est de l'argent. Alors qu'on pourrait mettre cet argent dans autre chose. Ensuite, moi, je sais que le gros désaccord, ça va être avec les relations de garçons.
Les relations affectives.
Moi, je sais que ça va être compliqué parce que moi, je vais être très dur. Et je sais que toi, t'es un peu plus ouvert.
Non, je suis dur.
Et en tout cas, je pense que t'es plus ouvert. Et je sais qu'à ce moment-là, ça va se fight. Mais pour de vrai. C'est-à-dire que je sais que ça va être une cause de grosses embrouilles entre nous.
Mais pourquoi tu dis ça? C'est quoi ta crainte sur les relations
affectives? Parce que toi, t'es trop ouverte.
Mais non.
Mais si. Mais non quoi?
Qu'est-ce que t'as... Mais justement, alors toi en tant que papa aujourd'hui, qu'est-ce qui t'effraie dans les relations affectives?
C'est-à-dire que moi, je sais que je vais restreindre certaines choses. Je vais interdire certaines fréquentations et je sais que toi, tu vas les accepter. Ou en tout cas, tu vas faire l'avocate de nos enfants pour me faire accepter certaines choses. Alors que...
On parle de quoi ? L'amitié ou
non,
de l'amour ?
Non, je parle de tout. Je parle de tout. Ça peut être l'amitié, une amie par exemple, moi que je sens pas, tu vois. Tu vas dire, ouais, mais non. Et je sais que ça va arriver parce que ça va avec l'âge. Et donc, moi, je sais que ça va être très, 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 très compliqué. Et souvent, des fois, je te le dis, comme ça, en plaisantant, mais moi, je ne vais pas rigoler parce que je pars d'un principe que là, nos enfants, pratiquement toutes, rentrent dans une phase qui est méga importante dans leur construction. Là, on va vraiment rentrer dans cette étape des fréquentations. Quelles sont tes fréquentations? C'est là. Et donc, il va falloir vraiment choisir à la loupe tes fréquentations.
Mais c'est elles qui choisissent ou c'est toi?
Non. Nous, on leur inculque des valeurs, des principes, et après, c'est leur libre arbitre qui va faire que elles vont choisir un tel ou un tel.
Tu vois, tu mais peux nous, pour rien.
Ouais, mais non, non, mais nous, on reste des arbitres. Tout à l'heure, on était dans l'imagerie de l'équipe, du sport. On reste les arbitres. Donc, à un moment donné, l'arbitre, s'il y a un hors-jeu, on siffle, non?
Ouais.
Donc, ça va être la même chose. Mais je sais que toi, tu vas être l'avare. Moi, je vais siffler, la VAR va arriver, elle va dire non. Je ne suis pas dans cette décision, je suis dans une autre décision.
Du coup, ça tombe bien que tu sois là-dessus. En grosse difficulté que vous avez rencontrée, traversée, qu'on a rencontrée, traversée, qui ont eu un impact sur l'éducation, ou en tout cas qui auraient pu avoir un impact sur l'éducation, est-ce que tu as envie de témoigner?
Répéter la question.
En grosse difficulté rencontrée.
En grosse difficulté rencontrée.
Ouais, qui ont pu avoir un impact ou des répercussions sur l'éducation de nos enfants. Est-ce que tu souhaites témoigner sur quelque chose? Par exemple, moi j'ai traversé une période où j'ai été en burn-out, en grosse dépression. Comment ça, est-ce que tu as envie qu'on en parle pendant 5 minutes sur les répercussions sur les enfants? Comment toi tu as géré la maison? Bah, tout seul, pendant plusieurs mois, est-ce qu'on en parle ou pas?
Bah, si toi t'en parles, moi, bah ouais. Ça me dérange pas.
Alors témoignons, comment t'as vécu ça? C'est-à-dire que, plante le décor.
C'est-à-dire?
Bah, comment, qu'est-ce qui s'est passé?
tu as été en burn-out, comme tu as dit. Mmh. Après, tu as été hospitalisé plusieurs mois.
Ouais.
Ça a duré longtemps. Et du coup, je me suis retrouvé tout seul.
Avec ou sans les filles?
Avec les enfants.
Ok.
Me suis retrouvé tout seul avec les enfants et dans une situation très délicate, que ce soit émotionnellement, psychologiquement ou financière même, du coup. Et donc, il a fallu garder le cap, malgré tout. Et tout ça sans forcément laisser transparaître la galère dans laquelle on était. Donc, c'était pas évident.
Tu voulais pas laisser transparaître, c'est ça?
Ouais, bah oui.
Okay.
Bah oui, parce que t'as les enfants qui sont là, les enfants, ils observent. C'est-à-dire que c'était très compliqué. Moi, je sais que les gens, ils le savent pas forcément. Moi, je vivais dans le noir. C'est-à-dire que, en fait, les enfants allaient à l'école. Et la journée, j'étais dans le noir. Et après, à 4h30, j'ouvrais les fenêtres pour pas leur montrer que j'avais passé toute la journée dans le noir, en fait. Donc ça montre ça image, en fait, un peu l'état d'esprit, c'est-à-dire que je faisais tout pour que, en fait, les filles ne ressentent pas ce moment délicat, alors que c'était très compliqué.
Et pendant, du coup, cette dépression post-traumatique, parce que j'ai dit burn-out, mais c'était une dépression post-traumatique, est-ce que, du coup, tu t'es, au-delà de l'émotion et de la difficulté que tu viens de décrire, est-ce que tu t'es senti démunie dans l'éducation des enfants? Est-ce que tu as eu besoin de renfort? Comment ça se passe pour gérer au quotidien, du coup, ce que vous aviez pris l'habitude de gérer à deux?
Démunie, oui, forcément, parce que si tu construis quelque chose à deux et tu te retrouves tout seul, bah oui, forcément, tu te retrouves démuni parce que tout ce que tu as construit, faut le refaire. Mmh. Tu perds un équilibre. Donc oui, démuni, oui, forcément, parce que en plus, tu as différentes phases, c'est-à-dire que tu as la phase où tu accuses le coup. Mmh. T'as la phase où à un moment donné tu te dis vas-y, m'en bats les reins et il advient ce qui doit advenir. Et t'as une autre phase qui arrive où tu te dis mais non, je suis obligé de rester debout en vrai. Parce qu'il y a les enfants qui sont là et que c'est la vie, tout simplement. Donc ouais, j'ai fait appel à du renfort. Après, on a la chance d'avoir une grande famille. Et dans notre grande famille, dès lors que on a des soucis, les gens ils répondent présent. Donc cette période-là, j'ai pu passer cette tempête. J'ai pu passer cette tempête grâce à notre famille, en fait, les membres de notre famille qui sont venus nous prêter main forte. Mmh. Donc
est-ce que tu as un conseil, parce que alors là, c'était dans le cadre d'une dépression post-traumatique, mais que peu importe la dépression, le burn-out, etc. Il y a des millions de familles aujourd'hui en France, la santé mentale, c'est un vrai sujet. Mmh. Et du coup, il y a des millions de familles qui traversent cette difficulté d'avoir peut-être sur un instant T, un des deux parents qui peut être dans cette fragilité. Comment t'as tenu bon et est-ce que tu peux pas avoir un conseil comme quelque chose qui est à prendre pour argent comptant, mais qu'est-ce que t'aurais envie de dire à ces papas déjà dans un premier temps qui peuvent être dans ta situation?
En fait, tenir bon déjà, moi je suis parti d'un principe où j'ai réfléchi à tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie, parce que on a parlé un peu d'une partie de ma vie, mais j'ai pas tout étalé. Et il y a des choses que j'ai vécues qui sont quand même importantes. Je dirais pas graves, parce que j'ai pas envie non plus de noircir trop le tableau, mais qui sont importantes. Et je me suis toujours relevé. Donc, il y avait une petite phrase dans ma tête qui me disait « T'as vu, t'as eu ça, t'as eu ça, t'as eu ça, t'as eu ça. T'as réussi à t'en sortir. Donc, c'est pas ça là qui va faire que tu ne vas pas te relever. » C'est ce que je te disais tout à l'heure, relativiser, dédramatiser, malgré que la situation soit très, très, très compliquée. Ensuite, il faut avoir son oasis. quand je dis son oasis, c'est que il faut trouver quelque chose qui te permet de te maintenir et qui te permet de sortir la tête de l'eau et de t'évader. C'est-à-dire que si ton quotidien il est comme ça, il faut forcément un truc qui fait que...
Au-delà des enfants. Hein.
Au-delà des enfants.
Sortir de cette parentalité.
Tu parles avec, tu parles avec quelqu'un, tu sors, tu fais des activités, tu vois. Il faut trouver quelque chose. Et moi, je sais qu'à cette période-là, bah, j'avais encore le son. C'est-à-dire que c'était la période où je commençais à être de plus en plus impliqué dans ce que je fais au niveau des médias. Et donc, je me rappelle que bah, à chaque fois que j'allais enregistrer, et bah, ça me permettait de m'évader. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, ça a été une soupape qui m'a permis de maintenir la tête hors de l'eau. Et ouais, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'il faut forcément trouver quelque chose que tu vas faire ou quelqu'un avec qui tu vas discuter ou tu vas créer du lien qui ne te maintient pas dans cette situation. Tout en restant focus sur la situation. Parce que quand je dis tu parles avec quelqu'un, tu peux parler avec quelqu'un. Il ne faut pas que ça te détourne en fait de ta situation en réalité. Il faut que tu restes mal. Tu sais, la personne, tu parles avec elle et tout. Peut-être que vas-y, tu t'évades et tout. Mais tu restes focus sur ta situation. Et du coup, tu auras tes moments où tu peux t'échapper. Parce que si tu restes H24 dans la situation, tu vas te pendre. Parce que tu ne vas pas voir le bout du tunnel. Mais si tu arrives à trouver des... Ça peut être le sport, ça peut être plein de choses en réalité, qui te permettent à un moment donné de souffler et de couper totalement avec le quotidien, et ben c'est ce qu'il faut faire pour moi. Ensuite, l'adulte qui est en face de toi, malheureusement, il est dans un état incompréhensible, irrationnel. Donc il faut... même si ce n'est pas évident, il faut arriver à détacher les actes, les paroles parfois, de la personne qui est en face de toi. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas péter un plomb parce que c'est tellement irrationnel que toi-même, tu vas plonger. Donc, il faut vraiment toujours comprendre que c'est une maladie, que... que c'est un mauvais moment à passer, que tu t'en sors en vrai. Tu t'en sors. Même si c'est long, tu t'en sors. Donc du coup, il faut continuer à donner de l'amour. Il faut surtout avoir de l'espoir, je pense. L'espoir, c'est très important. C'est-à-dire que même toi, quand toi, tu as été hospitalisé, on avait de l'espoir en vrai. On avait de l'espoir, on se disait « Ah, maman, elle va sortir bientôt, elle va redevenir normale, elle va truc. » Donc, c'est l'espoir. Parce que si tu n'as pas d'espoir, eh ben, c'est compliqué parce que du coup, la personne qui est en face de toi, qui elle est mal en point, eh ben, si elle ne voit pas dans tes yeux de l'espoir, ben, elle n'a pas d'énergie pour pouvoir se battre et pouvoir se relever de l'état dans lequel elle est. Donc moi, ce que je dis, c'est vraiment arriver à trouver son oasis ou ses oasis et faire en sorte de transmettre de l'espoir à la personne qui malheureusement est au plus mal.
Faut aimer profondément l'autre. Hein.
Bien sûr. Bah, c'est aussi un... Comment dire? C'est un baromètre. Hein. C'est un test. C'est un test de malade mental en vrai. Parce que tu peux tailler. Dans les trucs comme ça, tu peux tailler trop facilement. Et qui va te dire quoi en vrai? Demain, je veux tailler. Qui va te dire quoi? Personne ne va te dire quelque chose. La situation, elle est tellement complexe que... vas-y, tu peux tailler. Mais à un moment donné, je pense que l'amour... Je pense que quand tu réfléchis à ce que tu as construit avec l'autre ou ce que tu entrevois avec l'autre, bah, ça te permet de te maintenir et d'être... de bons secours, si on peut dire ça comme ça.
Est-ce que tu es fier de ta parentalité, de ce que tu as construit en tant que papa? Ce sera le mot de la fin.
Ouais, je suis fier. Quand je vois d'où je viens, je suis fier. Je suis un enfant qui est passé par les familles d'accueil, qui est passé par la DAS. De me dire que de voir ce que j'ai accompli, c'est pas fini, bah, je suis fier. C'est normal.
Merci à toi, c'était un très bon moment. C'est passé super vite, Barberiche. Merci à mon Paris FM, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Et comme on dit, personne ne reste à l'arrêt. À plus tard. Ciao.
Ciao.
Paris FM.